I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bibibibi Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bonjour Anne.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode live de Kif Taras, donc le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Et aujourd'hui, nous sautons depuis le festival d'Angeuse Lextrice à Rennes.
Vous le savez peut-être, dans Kif Taras, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rhum, de noir, tout ça sans complexe. Et aujourd'hui, on vous parle effectivement dans un épisode exceptionnel puisqu'il est enregistré en public.
Donc je vais parler du festival d'Angeuse Lextrice pour ceux et celles qui vont nous écouter plus tard, qui ne sont pas là aujourd'hui. Alors c'est un festival de littérature féministe qui se veut un lieu de promotion des écrits et paroles de femmes et qui revendique l'outil intersectionnel pour mieux combattre toutes les formes d'oppression, tant dans sa programmation que l'accès à sa programmation. Et donc Kif Taras a bien sa place ici aujourd'hui. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de Angeuse Lextrice de nous avoir invités.
Merci beaucoup. Nous sommes aussi ici à l'invitation de HF Bretagne que nous saluons. HF Bretagne est une association qui agit pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts et dans la culture. Elle a été créée en 2013 et une des présidentes d'honneur est depuis 2018 Marine Bachelot Nguyen, que nous avons reçue dans Kif Taras dans l'épisode qui était intitulé « Décoloniser les arts de la scène ». Alors, vous le savez peut-être ou pas, Kif Taras, c'est un podcast qui est dédié aux questions raciales en France. Il a été créé en 2018, il est produit par Binge Audio. Nous entamons la troisième saison du podcast et nous sommes très très heureuses d'initier cette saison avec des délocalisations de notre podcast qui est enregistré à Paris. Donc, pour commencer, on va expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas les questions telles qu'elles sont abordées dans Kif Taras. La question de la race, c'est une question qui fait énormément débat en France et c'est vrai qu'on a tendance à, comment dire, elle a tendance à déclencher quelques petites crispations quand on l'évoque comme ça de manière un petit peu crue. Donc on va vous expliquer comment on entend la question raciale et la race en particulier. Évidemment, il ne s'agit pas de la race biologique. On ne pense pas qu'il y ait une race biologique. On pense que tous les êtres humains appartiennent à la même race. Toutefois, du fait de l'histoire, du fait de la politique, des identités ont été créées, des identités raciales qui ont créé des hiérarchies au fil de l'histoire, des esclavages, de la colonisation. Et que ces hiérarchisations ont créé des catégories qui sont toujours opérantes aujourd'hui. Et donc, quand on parle de race, on parle d'une construction sociale qui produit toujours des effets sociaux, donc, en France, aujourd'hui.
Et on a évoqué plusieurs thèmes dans Kif Taras qui vont du féminisme à notre quotidien, à des questions qui sont, on va dire, théoriques, parce que les questions raciales traversent l'intégralité du spectre de la vie des personnes qui sont non-blancs, non-blanches. Ce n'est pas juste quelque chose qui peut, on va dire, être limité dans un seul domaine, hélas, mais en tant que personne non-blanche, je rencontre des problèmes liés à la perception que les autres ont de moi, c'est-à-dire en tant que personne sud-asiatique, sud-est asiatique, et qui va interférer dans nos vraies relations, en fait. Et donc, dans le podcast, on s'est penché sur pas mal de questions. Aujourd'hui, on va se plancher vraiment dans l'intersection entre le manger, la nourriture et les questions raciales. Et aussi en tant que femme, puisque nous sommes toutes les deux des femmes non blanches. Donc, en tant que minorité et femme, notre perception de notre personne, elle est biaisée par plein de choses. Et par rapport à la nourriture, est-ce que toi, en tant que femme noire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappée ?
Bah, disons que les préjugés, de manière générale, associent fortement les femmes à la sphère domestique, mais que pour les femmes qui sont d'origine étrangère, qui sont issues de groupes racisés, négativement, il y a une perception qui est extrêmement stéréotypée, et l'image vraiment générale de la femme noire, en fait, c'est deux extrêmes. Soit c'est la femme noire hyper sexualisée, donc voilà, très sexualisée, très sexy, etc. Soit c'est la maman, donc c'est la mère nourricière, donc c'est la mère qui à la fois nourrit ses enfants, mais nourrit les enfants des autres. Et d'ailleurs, malheureusement, ça se confirme, en fait, par les pratiques sociales en France, dans la garde d'enfants, dans le fait d'entretenir aussi les espaces domestiques. Donc on voit que les femmes sont très, très surreprésentées parmi les femmes de ménage, les femmes noires, les femmes africaines notamment, les femmes immigrées. Donc il y a toujours cette idée-là de la femme noire qui est hyper compétente en fait pour tout ce qui est relatif à la sphère domestique et qui
soins des autres.
C'est ça, aux soins des autres, qui nourrit, qui sait garder les enfants, qui sait les élever, qui sait faire à manger aussi.
Et le pivot, c'est un peu la maternité en fait. Ouais. C'est-à-dire que avant d'avoir des enfants, vous êtes une
Rihanna. Et après, vous êtes la femme de autant n'importe le vent. En gros.
Voilà. Donc c'est une transformation assez
c'est un peu
radicale,
mais c'est voilà, c'est les deux types de femmes noires qui existent dans l'imaginaire collectif.
Et en tant que femme asiatique, sud-est asiatique, donc mes parents sont du Cambodge, et c'est des gens chinois, ils sont chinois du Cambodge, il y a par rapport à l'Asie et le corps et la nourriture, cette idée que tout est petit en Asie. C'est-à-dire que les femmes sont plus petites, les vagins sont plus petits, voilà, tout est très mignon, très kawaii. Hein. Ça, c'est quand on englobe qu'on pense que l'Asie, c'est juste un seul grand pays et qu'ils parlent tous la même langue et mangent tous la même chose là-bas. Et donc, il y a encore aujourd'hui une question très, très... forte du corps des femmes asiatiques en termes de taille. C'est-à-dire que quand vous voyagez en Asie, vous allez très vite vous rendre compte que le XL que vous achetez là-bas, il ne correspond pas exactement au XL ici. Donc moi, par exemple, quand je vais en Asie, ma famille me dit « Mais t'es grosse, tu manges trop de riz, parce que le riz, bah, en fait, il y a une expression carrément, quand j'étais petite, on m'appelait « fantong », ça veut dire « soari ». Donc, en fait, quand tu manges du riz, t'es un seau. Donc, voilà. Et il y a cette idée très forte aussi. Alors là, je le vois actuellement avec les idols coréennes. Donc, ces femmes qui sont très jeunes, qui sont propulsées sur le devant de la scène. Et il y a une très forte relation au poids. Elles doivent être très fines. Elles doivent être menues. Il y a même, je crois, des conversations sur Internet où ils pensent que donc 57 kilos, c'est donc le poids idéal de la femme coréenne. Parce qu'elles font toutes environ 1m60. Enfin voilà. Et donc, ils ont calculé que... Enfin, ils ont calculé, je ne sais pas qui sur Internet calcule ça, mais en tout cas, il y a des conversations.
Ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Voilà.
Donc voilà, donc, c'est vraiment quelque chose qui colle au corps de ces femmes non blanches.
Et du coup, par rapport à la nourriture, il y a quand même un préjugé d'hypercompétence par rapport à certaines femmes. Voilà, une femme noire, ça sait cuisiner. Enfin, on imagine qu'elle est capable de cuisiner parce que c'est soit une mère de famille nombreuse, soit une future mère de famille nombreuse. Donc, il y a toujours cette idée d'hypercompétence, de personne qui sait cuisiner, qui sait nourrir les gens. Et c'est vrai que c'est, voilà, c'est quand on ne sait pas cuisiner, par exemple, et qu'on est noire, comme c'est mon cas... C'est un peu compliqué de un peu subvertir ce que les gens attendent en fait de nous quoi. Ils imaginent ce qu'ils projettent sur nous quoi.
Mais tu vois, moi avec, par rapport à ce cliché là, j'ai un vrai souci parce que bon, il y a plein de gens qui me demandent, tu connais pas un bon resto et bon, asiatique généralement. Et en fait, ça me dérange pas. Mais des fois, je me dis, mais c'est vrai que c'est très cliché, quoi, la fille qui donne des recos de resto. Parce qu'en plus, j'ai commencé, moi, à écrire en 2011. J'avais un blog qui s'appelle toujours La Petite Banane, mais que j'alimente beaucoup moins. Donc, La Petite Banane, parce que dans la question des personnes asiatiques de deuxième génération qui sont nées ou qui vivent dans les pays non asiatiques, il y a ce symbole de la banane qui serait la personne jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur parce qu'elle aurait intégré, normalisé voilà, le fait de vivre dans un pays où la norme est blanche. Et donc moi j'avais utilisé cette formule parce que ma famille me disait tout le temps t'es pas assez chinoise, alors que je voyais bien que j'étais très chinoise puisqu'à l'école on me demandait encore d'où je venais. Et Donc le thème de la nourriture, pour moi, ça a été quelque chose d'assez fort, parce que c'était la première porte d'entrée que j'avais vers mon héritage culturel, et c'est par la nourriture que mes parents m'ont beaucoup transmis, étant des gens qui étaient déjà des gens de peu de verbes, et qui aussi ne maîtrisaient pas la... Enfin, moi, je ne maîtrise pas le chinois comme ma famille parle chinois, donc c'est ma langue maternelle, mais ce n'est pas ma langue la plus... maîtriser. Et du coup, il y avait un problème de communication avec ma famille et beaucoup se faisait à travers la nourriture. Donc j'ai écrit à propos de la nourriture parce que c'était pour moi vraiment un point d'ancrage vers l'héritage de mes parents. Et aussi, la nourriture, ça reste, par rapport aux pays sud-asiatiques, asiatiques d'une manière générale, un vrai thème de conversation. C'est-à-dire que les gens vont en Asie et ils te disent « Ah, oh, mais j'ai mangé un pad thaï, c'était à Phuket, là, un dollar, c'était vraiment incroyable. » Donc, des gens ont des souvenirs très forts hein, qu'ils associent à l'Asie. Donc, on a tous, moi la première, hein, d'ailleurs, je ne voyage que dans des pays où je peux manger, je ne voyage jamais dans des pays, je ne les citerai pas, où j'ai des grandes déceptions, mais des grandes déceptions en arrivant, en me disant « Ah, oh, je vais manger un plat local », et je dis « 5 jours, ça va pas être possible de ça ». Et c'est vrai que l'Asie est vraiment associée à la nourriture, c'est-à-dire que voilà, on connaît les plats emblématiques de tel pays. Et c'est vrai que c'est pas le cas des pays d'Afrique.
D'Afrique subsaharienne, ouais. Parce qu'on connaît très bien les plats d'Afrique du Nord. Le couscous, c'est le plat préféré des Français. Ce qui ne les empêche pas de voter RN. On n'est pas un paradoxe près. Mais non, en fait, c'est l'Afrique subsaharienne dont on connaît très peu la cuisine, qu'on associe, enfin, les gens qui savent des trucs connaissent le mafé, mais qui est en fait le plat de pays ouest-africains. Mais l'Afrique centrale, déjà, on ne sait plus trop. On ne sait pas, dire si je demande aux gens, les gens ne savent pas trop ce qu'on mange au Congo, ou voilà, dans aucun des deux Congos, enfin, à part les Congolais en question, ou des gens qui ont pu les fréquenter, mais ce ne sont pas des nourritures qui sont très connues, qui sont très identifiés par les gens. Il n'y a pas forcément de restauration rapide aussi qui permettent de s'alimenter avec de la nourriture qui vient de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est vrai qu'à part quelques clichés, l'idée du poulet par exemple, alors que c'est encore un préjugé, qu'il y a plein de... Enfin, il y a quand même plusieurs pays africains. Moi, je suis originaire du Sénégal, c'est en bord de mer. Les gens mangent énormément de poissons. Il y a des plats avec du poulet, mais c'est pas forcément le...
Tu vas pas au KFC ?
J'aime pas, je mange pas de viande en fait, donc non, de manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a ce préjugé-là. Donc le KFC, c'est les États-Unis, c'est le Sud, c'est peut-être en rapport avec des Noirs, mais d'un autre pays, enfin d'un autre continent même. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés qu'on associe aux Noirs de manière générale, mais pas précisément au continent africain. Donc il y a une espèce de méconnaissance des plats en fait subsahariens. Et en plus, voilà, l'Afrique subsaharienne qu'on connaît en France, c'est l'Afrique qui a été anciennement colonisée. On connaît aussi certaines choses qui viennent des Caraïbes, donc comme les Accras ou le Colombo, etc. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui voyagent dans ces pays-là, qui vont en vacances. Mais c'est, voilà, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément très imprimé dans l'imaginaire collectif. Et après, moi, par rapport à la nourriture, moi, je suis allée à la crèche vraiment très, très tôt, en fait. Donc très rapidement, j'ai mangé à l'extérieur de chez mes parents. Et c'est vrai que très vite, en fait, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une nourriture de chez moi et la nourriture de la cantine. Et donc, c'est vrai que pour moi, ce qui me paraissait étrange, c'était la nourriture de la cantine, genre les salsifis. C'est genre la première fois que j'en ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Il n'y a pas que toi qui penses que c'est étrange, les salsifis.
On est d'accord.
Les gens, c'est la culture.
Donc, moi, j'ai eu toutes mes expériences en fait, de nourriture pseudo-française. Mais en plus, l'entrée, c'était vraiment la cantine. Donc, ce n'est pas l'entrée la plus agréable, on va dire.
Ouais, c'est vrai qu'on peut vraiment détester la cuisine française,
ouais,
on commence par la cantine.
Du hachis parmentier toutes les semaines.
Pourquoi les haricots, pourquoi ils sont mous ? J'ai une question sur les haricots verts. Pourquoi est-ce qu'ils sont mous ?
Donc, voilà, moi, c'est vrai que le rapport que j'avais avec la nourriture française, c'était une entrée par la cuisine de la cantine. Et aussi, bon, j'avais quand même ma marraine qui était française blanche, donc du coup, je mangeais d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y avait deux types de nourriture. Il y avait la nourriture de chez moi, et je pense que j'ai appris à apprécier la nourriture que faisait ma mère quand je suis partie de chez mes parents. Donc en fait, assez tard, c'était quelque chose que je considérais vraiment comme complètement acquis. Et en fait, maintenant, je réalise que c'est des plats qu'on met 3 heures à faire, donc que je ne ferai jamais. Et que maintenant, quand je vais voir ma mère, quand je lui rends visite et tout, j'apprécie énormément parce que je me rends compte que ce sont des plats qui sont très difficiles d'accès et beaucoup plus, quelque part, en tout cas en France, originaux, que ceux à quoi je peux avoir accès par ailleurs. Donc j'ai vraiment appris, d'une certaine manière, à valoriser cette cuisine-là quand elle est devenue moins quotidienne.
Moi, j'ai aussi ce rapport assez compliqué à la nourriture par rapport à mon enfance, parce que je me souviens avoir... Bon, moi, j'adorais manger à la cantine, hein, j'avoue. Vraiment, je trouvais ça délicieux. C'est vrai que j'ai pas eu de problème avec des traumatismes précoces sur les épinards. Ou voilà, non, j'ai beaucoup aimé
ça. La béchamel La béchamel de la cantine, non mais c'était horrible.
Et... Et moi, je me souviens aussi, par rapport à la cantine, d'avoir été confrontée, du coup, à des petites hontes par rapport à ma cuisine d'origine, la cuisine de chez moi. Parce que, il faut dire que le racisme anti-asiatique, donc qui est le racisme que subit les personnes sud-est asiatiques, est-asiatiques d'une manière générale, qu'on regroupe sous l'appellation chinois, voilà. Ce racisme-là, il est largement basé aussi sur des conceptions négatives de des cuisines asiatiques. Donc voilà, vous avez tous entendu les gens dire ah, mais c'est des gens bizarres, ils mangent du chien, ils mangent des rats. Maintenant ils disent même ils mangent du pangolin, ils mangent des chauves-souris. Voilà, donc ça évolue dans le temps, ça c'est bien, comme ça on n'est pas figé, n'est-ce pas, on s'adapte. et moi vraiment quand j'étais petite, il y avait vraiment ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les nems? Tu sais ce qu'il y a dans les nems? Dis-nous pourquoi c'est si bon. Il doit avoir un truc qui va pas parce que c'est une drogue.
Ça peut pas être légal, c'est pas possible.
Et donc vraiment, c'est vraiment, il y a une partie du racisme qui est basée de manière générale sur l'étrangeté. Et donc le fait de venir d'ailleurs, d'être exotique, déjà rien que ce mot exotique, voilà, la cuisine exotique, hein, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que si on mangeait que ce qui poussait sur notre sol depuis des millénaires, je pense qu'on mangerait pas grand-chose. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs et qu'on acclimate hein, d'ailleurs. Et donc la cuisine asiatique, c'est vraiment... Il y a aussi les deux extraits dont tu parlais tout à l'heure par rapport aux femmes. Je pense qu'elle existe par rapport à la cuisine pour les Asiatiques. C'est-à-dire que d'un côté, on adore les nems. Et de l'autre côté, on se dit quand même, ils mangent des trucs hyper bizarres. Alors qu'en France, on mange des escargots et personne ne trouve rien à redire là-dessus. C'est-à-dire qu'on trouve ça, non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Bah tiens, j'en ai pris un dans le jardin, c'est très bon. Non mais c'est très bien de manger des escargots. Moi, je n'ai rien contre les escargots, c'est juste une question de perception en réalité. C'est-à-dire que ce que tu trouves bizarre, hein, il faut juste se remettre en question sur le côté étrange. Parce qu'on trouve bizarre ce qu'on ne connaît pas. Et,
après, il y a tous les préjugés sur... Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance parce que j'ai eu accès aux nourritures d'origine asiatique très tôt parce que j'ai grandi dans un immeuble où il y avait quasiment que des Asiatiques à part ma famille. Du coup, c'est vrai qu'on allait manger. Enfin, ma nounou, elle était originaire du Laos, donc elle emmenait dans sa famille quand elle me gardait, etc. Donc, du coup, très rapidement, c'est pas une nourriture qui m'est parue étrange parce qu'elle était dans mon quotidien. Mais c'est vrai que moi, je me souviens de tout ce qu'il y a pu avoir en termes de reportage sur les restaurants chinois. Enfin, je me souviens notamment d'Envoyé spécial sur les restaurants chinois qui seraient particulièrement sales avec tout. Et je me souviens très bien du lendemain, parce qu'à l'époque, je bossais. Et le lendemain, je suis allée travailler. Et tout le monde, donc pour déjeuner, en fait, personne ne voulait aller chercher un truc chez le traiteur. Je ne sais plus de quel pays il était, mais
alors
personne
ne voulait aller. Ouais, c'est un reportage de M6 qui a eu lieu en 2003 et qui a été rediffusé ensuite en 2006. Ah, et donc, il y a une fédération, enfin, il y a plusieurs fédérations de restaurateurs, de traiteurs chinois. Et ils ont enregistré, suite à cette campagne... des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 à 50%. Donc c'est vraiment très important, c'est-à-dire que ce qui vous paraît, enfin c'est sûrement une anecdote hein, pour M6, hein, ils ont dit ah bah tiens on va faire ça, ça va être super, ça va buzzer. Et en fait ça affecte la vie des gens, c'est que le racisme affecte la vie des gens. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de restaurateurs qui ne respectent pas les normes sanitaires, je pense qu'il y en a des restaurateurs d'ailleurs de toutes les origines, hein. Je pense pas que les personnes asiatiques soient plus fourbes qu'ailleurs, quoique si ouais, on en prend le racisme.
Cauchemar en cuisine, enfin je pense que...
Ah oui.
Là, ça donne même plus envie d'aller au resto, en fait.
Mais cette image de la cuisine sale, du non-respect des normes sanitaires par une certaine partie de la population, elle demeure dans les esprits, elle est ancrée. D'ailleurs, moi, on me dit souvent, des gens très bien intentionnés qui me disent « Je connais un super restaurant chinois, mais attention, il est hyper propre !» Donc, cette partie de la phrase « Mais attention, il est hyper propre !» ça veut tout dire, c'est-à-dire que moi, j'adore la cuisine exotique, mais il faut que ce soit fait par des Français, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit fait par des gens de chez vous, parce qu'on sait comment vous êtes. Donc, vraiment, le racisme est anti-asiatique, il est très, très présent dans cette sphère, et c'est très difficile de le combattre. Les gens le font, mais c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des luttes contre le racisme anti-asiatique.
Et puis après, il y a aussi cette ambivalence par rapport à la nourriture. Enfin, moi, je pense au débat qu'on peut avoir actuellement sur les femmes musulmanes et notamment les femmes qui sont originaires du nord de l'Afrique, où on a pu avoir des témoignages de femmes qui, à la fois, on va leur dire « N'accompagnez pas vos enfants à l'école, c'est pas possible avec votre foulard », mais en même temps, on est bien content quand elles apportent des gâteaux, soit pour l'Aïd, soit pour le goûter de Noël, etc. Donc, il y a une espèce toujours d'ambivalence où ces femmes-là, on ne veut pas leur confier de responsabilité, mais on leur attribue toujours cette fonction nourricière où là, on est content de manger des cornes de gazelle ou des macroutes parce que là, c'est un rôle dans lequel on les attend, quoi.
Complètement. La kermesse de l'école, elle ne serait, si on peut pas compter sur le buffet des parents, parce que c'est déjà ça, et vraiment la générosité, une question de générosité, ouais. Parce que les cuisines d'ailleurs, c'est des cuisines généreuses. Il y a un truc de l'ordre de la quantité, de vraiment de l'abondance.
Et du temps consacré.
Quoi, et du temps consacré. Ouais, ouais. Et ça se retrouve, tu sais, par exemple dans ces images de après le Ramadan, quand, enfin même le soir du Ramadan, quand on casse le Ramadan, il y a cette idée d'abondance qui est pourtant pas forcément réelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent dans des proportions normales, alors que cette idée du Ramadan en France, il y a vraiment cette idée de on se jette sur la nourriture et on se gave, alors que c'est pas du tout, enfin je pense que spirituellement c'est pas du tout ça le but, voilà, oui. de faire ce jeûne, mais vraiment on associe toujours des personnes non blanches à cette idée de la nourriture qui est différente de nous.
Eh bien, on va poursuivre cette discussion avec notre invité.
Oui, notre invité du jour, aujourd'hui, c'est une cuisinière et poétesse. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre, Débo, s'il te plaît ?
On applaudit Débo. Donc, Débo, grâce l'a dit à l'instant, tu es cuisinière et poétesse, fondatrice de Papy et Papier, ton entreprise qui propose des repas spectacles. D'ailleurs, certaines personnes peut-être qui sont parmi vous ont eu l'occasion de participer au brunch que tu as proposé il y a quelques heures. Merci d'avoir enchaîné avec Kif Taras.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Merci Débo.
Alors, quand ils mangent, ils ne sont pas masqués. Là, tout le monde est masqué. Du coup, je ne reconnais personne qui a assisté au brunch ce midi. Mais il y avait au moins la technicienne son, la régisseuse son. Et j'ai oublié ce que c'était la question.
Mais je vais te poser une autre question.
Je suis cuisinière et poétesse, tout à fait.
Et fondatrice de Papier et Papier.
Oui, c'est une entreprise qui fait à la fois de la cuisine et de la poésie. J'ai longtemps fait la course à l'intermittence du spectacle en faisant exclusivement de la poésie, essentiellement en musique, mais aussi sous d'autres formes, avec différents médiums, avec des danseurs, avec des vidéastes, avec voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu faire plus de cuisine parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu et je me suis toujours dit que ce serait mon dernier métier. Voilà, je n'ai pas encore lâché la poésie, donc je fais les deux.
Alors dans Kif Taras, on a un rituel pour nos invités. On leur demande si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment. C'est-à-dire que moi, par exemple, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure longuement, je suis perçue comme une femme asiatique et Rokhaya, une femme noire. Et toi, Débo, est-ce que toi, ça t'a déjà traversé l'esprit ?
Oui, alors justement, moi j'entends deux questions dedans. Il y a la question de comment je suis perçue et de comment je me positionne. Ça déjà, c'est deux choses différentes. Perçue, ça dépend de où et de quand. Aujourd'hui en France, je suis perçue comme une femme noire. Il m'arrive de me positionner comme une femme noire. Je suis née, j'ai grandi au Sénégal. Et quand j'étais petite, on m'appelait Bourès, c'est la claire. Donc je suis devenue une fille noire en arrivant en France. Et puis ensuite, je me suis construite en tant que femme noire en France. Mais moi, je me positionne en tant que métisse. Il y a un mot que j'aime en Wolof, c'est djahassé, c'est mélangé. Et le djahass, c'est le patchwork. Et moi, je me sens plutôt comme ça parce que je suis métissée, mais pas juste de deux. J'ai trois nationalités et j'ai plus d'origine que ça encore. Et sur juste deux à trois générations. Donc mes grands-parents sont d'origines différentes, je les ai tous connus, je connais leur histoire. C'est pas quelque chose qui remonte à il y a super longtemps, etc. Du coup, c'est vraiment présent. Et dans votre échange, avant que je prenne le micro, ce qui me faisait rigoler, c'est que je me reconnaissais autant dans des anecdotes que tu pouvais raconter, grâce que dans des anecdotes que racontait Rokhaya. Parce que moi, ma maman est moitié vietnamienne. J'ai beaucoup appris la cuisine à travers elle et à travers sa mère qui est vietnamienne. Je cuisine tous les jours avec des baguettes de cuisine, etc. Ça surprend tout le monde de voir une femme noire cuisiner avec des baguettes. Mais pour moi, c'est très, très, très logique, quoi. Et je me reconnais, je suis tout à fait dans l'image de la mama africaine. Je suis forte, enfin, je cuisine copieux, coloré, enfin, voilà, tout le cliché. Et je fais de la poésie érotique, donc voilà, je suis tout dans tous les clichés à la fois.
Bravo, t'as le combo parfait.
Parfait, parfait, parfait.
Et tu nous as dit que t'es femme noire depuis que t'es en France. C'est-à-dire que t'es née, t'as grandi au Sénégal, et est-ce qu'il y a un moment en France, donc t'es arrivée...
Je suis arrivée en France juste avant mes 16 ans.
Et est-ce qu'il y a un événement qui t'a fait réaliser que t'étais perçue comme une femme noire en France ?
Ah oui, bah mon premier jour d'école. Je suis arrivée en classe de première. Je suis arrivée dans un lycée privé catholique à Aix-en-Provence.
N'en dis pas plus.
On était deux non-blanches, ou non-blancs, tous sexes confondus, dans l'école. L'autre, par instinct grégaire, je suis allée voir cette deuxième personne à la récréation, qui m'a répondu par « Ah mais moi je suis française, hein ». Je lui ai dit « Bah moi aussi, en fait ». Et voilà, elle était réunionnaise d'origine, mais du coup, elle a senti, je pense, cet automatisme de ma part, et elle voulait absolument pas que je me dise « Ah bah parce que t'es noire, t'es marron aussi, on va être copines ». Non, ça n'a pas fonctionné du tout, donc voilà. Et à partir de là, à partir des questions qu'on m'a posées, justement, et j'ai bien senti, souvent aussi en voyant qui les gens considéraient comme métisses. C'est-à-dire que moi, je suis trop foncée dans l'imaginaire collectif pour être métisse, souvent. En hiver, ça peut être un peu plus, un peu plus ambigu, mais du coup, dans l'imaginaire français, j'ai compris que j'étais trop foncée pour être métisse, donc je suis noire. Moi, j'étais super contente d'être noire hein, quand je suis arrivée, parce que toute ma vie, j'avais voulu être noire et on me disait que j'étais claire, donc j'étais très contente à ce moment-là. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire dans la tête des gens, etc. Et, voilà.
Et quand tu vas... Est-ce que tu veux t'aller au Vietnam ?
Non, jamais, d'accord. Malheureusement. Mais okay. Un jour, j'y compte bien.
Ok. Alors moi, j'étais pas du tout... Enfin, j'aimerais que tu nous parles de ce mélange de... parce que Vietnam, Sénégal, c'est pas... L'association,
pas
voilà, qui vient dans la tête des gens assez naturellement. Est-ce qu'il y a une histoire particulière de cette union que tu peux nous raconter?
Oui, alors ça peut être long, mais ça peut être très court. Ma grand-mère qui est décédée le mois de mai dernier, qui s'appelait Sinh Thi Lien, elle est née, elle a grandi au Vietnam, elle est née en 1933. Elle a quitté le Vietnam à 14 ans parce que ses parents ont été tués, parce qu'ils travaillaient pour des Français. Et elle a quitté le Vietnam avec la sœur de sa mère, qui, elle, était mariée à un militaire français. Et elle a été adoptée donc, par sa tante et son oncle. Elle est d'abord venue en France. Puis deux ans après, ce père adoptif a été muté en tant que militaire français au Sénégal. Ma grand-mère est donc arrivée au Sénégal dans les années 40, comme ça, à 16 ans. Et elle a rencontré, du coup, mon grand-père, qui lui était moitié suisse, moitié sénégalais. Mandingue, très précisément. Et voilà.
Merci pour ce récit.
Ce petit voyage.
Ouais, ouais. Je pense qu'il manque des petites choses aussi.
Parce que mon père, ouais, c'est encore un autre monde. <Ouais. rire>
Mais merci, ça nous donne déjà une idée de comment aussi la question coloniale peut jouer dans la constitution des familles françaises actuelles. Parce que voilà, qu'un militaire français aille au Sénégal dans les années 50, c'est par hasard.
Donc, non, voilà. Moi, ça m'arrive de sortir cette réplique-là, de dire le rôle positif de la colonisation, c'est moi.
Ouais. Alors, je vais citer une partie de ton site sur lequel tu dis que dans le monde actuel, toutes les cuisines sont métissées et que les mains mises à la pâte en aient conscience ou non. Au terme de fusion, qui tend à créer un nouveau moule commun dans lequel toutes les cuisines devraient se fondre, je préfère celui de créolisation, cher à Édouard Glissant, qui encourage à avoir pleine conscience de toutes les particules qui composent notre assiette pour mieux en apprécier l'unique et inattendue alchimie. Je trouve très joli ce que tu as écrit sur ton travail, puisque j'imagine que ça s'applique vraiment à ce que tu fais et que tu n'aimes pas ce terme fusion. Moi aussi, je déteste le terme fusion. Je trouve que c'est vraiment... Ça ne veut rien dire, en fait, fusion. Et la connotation que tu associes entre fusion et assimilation française, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça veut dire que dans l'assimilation française, cette politique qui souhaite qu'on gomme les particularismes des personnes qui sont accueillies, qui viennent en France, au profit d'un tronc commun qui serait celui de celui qui était là avant, en fait, tout simplement. Donc la majorité blanche, la majorité chrétienne, voilà. Moi, dans mon éducation, c'était très fort. Et c'est aussi, pour moi, un discours public qui est sans cesse renouvelé, l'intégration, l'assimilation. Et toi, tu l'associes à la cuisine. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de cette manière, toi, de faire ta cuisine, et pas fusion, mais créolisation?
En fait, Moi, dans le fond, le mot fusion me dérange pas. Je le trouve très beau et en cuisine, il a du sens parce qu'en plus, quand on cuit les choses, il y a une réelle fusion chimiquement. Mais sauf qu'il a été galvaudé et du coup, c'est ce qu'on met dedans. Et une fois de plus, c'est la perception que les gens en ont qui me dérange. J'allais dire que moi, j'appelle ma cuisine fusion avec ce que moi je mets dedans. Ça me dérangerait pas, mais bon, comme les autres sont pas dans ma tête, je fais avec ce qu'ils ont dans la leur, quoi. Et du coup, je choisis de plutôt de les renvoyer vers quelqu'un comme Édouard Glissant, donc écrivain, philosophe, poète, martiniquais, que je conseille à toute personne qui s'intéresse aux questions de la race de lire. Moi, quand j'ai rencontré les écrits de cette personne-là, je me suis dit « Ah, ça, il a mis des mots sur plein de choses que j'arrivais pas à formuler ». Et du coup, je préfère utiliser ce mot-là, même si je sais que dans le créole, justement, il y a toute une autre projection et plein de préjugés, encore plein d'autres choses que les gens entendent dedans. Mais là, pour le coup, je choisis de l'utiliser et sur mon site, je le mets en rouge pour que les gens puissent cliquer dessus et arriver sur le lexique de Glissant parce que je me dis, bon, on va commencer par déconstruire là, quoi. C'est une façon comme une autre de se positionner. Et pour moi, c'est... La fusion, elle a réellement du sens parce que dans ma famille, dans une des lectures que j'ai fait dans le brunch aujourd'hui, qui est une nouvelle autour de Fatou, qui était la gouvernante chez ma maman, avec qui j'ai grandi, la cuisinière, la mère nourricière, justement. Et Fatou, c'est une Sénégalaise, une Djola, elle cuisine avec des baguettes aussi. Et elle cuisine de tout, italien, français, sénégalais, vietnamien, libanais, capverdien, antillais, parce que ma famille est comme ça, du coup. Et elle a appris, elle a travaillé suffisamment longtemps là-bas pour connaître des plats de tous ces pays-là. Et du coup, moi, la cuisine que je fais, elle est juste le reflet de tout ça. Et plus toutes les autres choses que j'ai eu la curiosité, le goût ou la chance de rencontrer par mes voyages, par mes lectures, mon intérêt pour un certain type de musique ou de cuisine. Je suis super fan de la musique de la Nouvelle-Orléans. Je suis allée découvrir la cuisine de la Nouvelle-Orléans. Et cette cuisine-là est elle aussi faite de plein de métissages et tout ça. Donc ça m'intéresse, je m'y reconnais d'autant plus. Et je me prive pas pour l'intégrer à ce que moi je fais. Et voilà, je pars du principe que j'essaye toujours de prendre les gens là où ils s'y attendent pas, mais par des chemins qu'ils ont l'impression de connaître. C'est pas l'idée de bluffer avec plein d'artifices ou quoi, mais c'est plein de petites choses, plein de petits engrenages comme ça.
Et justement, qu'est-ce que tu évoques, tous les débats, toutes les questions qu'on peut avoir sur à la fois l'identité de la France, les questions raciales, est-ce que ce sont des choses qui te parlent, sachant que tu t'es construite socialement ailleurs, enfin, t'es venue en France en étant adolescente, donc il y a une grande partie de ta socialisation qui s'est faite au Sénégal. Est-ce que tu les perçois, de quelle manière tu les as vécues quand tu es arrivée et comment aujourd'hui tu interprètes les débats qui peuvent se produire actuellement?
Alors, dans des moments comme ça où il y a quelque chose qui est pointé, où, j'ai toujours l'impression des fois que j'ai une espèce de petite caméra qui sort de ma tête, qui se met sur le côté et qui me regarde. Parce que il y a ce que je vis sur le moment, justement dans la position dans laquelle je suis en tant que moi, femme noire en France. Et il y a l'autre moi, on va dire, qui regarde ce qui se passe, quoi. Et il y a ce truc du métis, le cul entre deux chaises ou entre huit pour ce qui me concerne, qui fait que, quand même, moi, ça m'apporte une certaine paix, en fait. Et du coup, je me sens parfois un peu extérieure, un peu observatrice. Sauf quand je suis prise à partie. Après, il m'arrive bien sûr de me positionner sans même qu'une tierce personne me prenne à partie. Et puis j'ai aussi été victime de racisme en France aussi. Ça fait rentrer dans le bain très très vite, hein, donc là-dessus. C'est vrai que par exemple dans la fraternité que ça peut créer entre personnes non blanches en France, je sais qu'il y a des choses, il y a des colères par exemple qui sont plus difficiles à partager pour moi parce que j'en ai pas fait l'expérience justement et parce que j'ai cette paix entre guillemets, j'ai la chance d'avoir ce truc-là, de connaître mes origines, de connaître les gens, d'avoir une réelle histoire avec le pays d'où sont originaires mes parents, parce que mes parents sont tous les deux nés au Sénégal aussi. Et du coup, par rapport à la France, j'ai à la fois je me sens très impliquée et un peu en recul aussi. Après, au Sénégal, c'est encore autre chose.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Moi, j'avais une question sur ton travail et... Qu'est-ce que tu nous ferais comme plat si tu devais composer un dîner-spectacle pour moi et Rokhaya, pour Yves Taras ? Est-ce que, quelle création tu pourrais, ça te fait penser ? Et quelle lecture, enfin, lequel de tes poèmes, par exemple, tu nous lirais pour accompagner ce repas ? Et ce sera notre dernière question. Et ensuite, on passera le micro dans le public si vous avez des questions. Il y a une jeune femme, Margot, qui est là, voilà, qui est là et qui va, vous pouvez faire un petit signe, elle prendra votre question.
Alors, quel plat je ferais pour vous ? J'hésite entre deux, mais je veux dire, vite fait les deux comme ça. J'aurais pas à choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc, dans le point commun entre les deux, j'aime bien travailler les couleurs dans ma cuisine. Et je me suis, il y a longtemps, lancé un défi d'arriver à faire des arcs-en-ciel de différentes façons en cuisine. Et du coup, il y a deux plats arcs-en-ciel que je fais, que je verrais bien pour Kif Taras, le côté justement... Il y a de tout le monde et en même temps, ça crée quelque chose à la fois d'unique et de reconnaissable. Donc voilà. Et c'est ce que j'aime aussi, moi, dans l'arc-en-ciel, en dehors du côté licorne. Et j'ai fait ce midi, j'ai fait un millefeuille de sarrasin, arc-en-ciel, donc avec des galettes de sarrasin. Nous sommes en Bretagne, n'est-ce pas ? Et donc, il y a six couches différentes, de six couleurs différentes. C'est exclusivement végétal, avec quand même une petite couche de crème fouettée sur le dessus. Mais dedans, il y a à la fois du Sénégal, il y avait un pesto de feuilles de bissap qui est mélangé avec du zaatar libanais et de la coriandre viette, du raoram. Ça, c'était pour le vert. Le bleu, c'est avec du chou rouge et de la pomme de terre. Le jaune, c'était une crème au curcuma. Le orange, purée de carottes et patates douces. Le rouge, un confit de poivron au kombava. Le rose, un houmous à la betterave.
J'ai hyper faim.
Et voilà. Et du coup, fromage fouetté et le violet sur le dessus, c'était des algues dulces de Bretagne également. Tout le végétal de ça est breton. Enfin, pousse ici. Les feuilles de bissap, ça pousse ici. La coriandre vietnamienne, ça pousse ici. Les patates douces, elles viennent de Saint-Gilles à moins de 30 km. Enfin, c'est comme quoi, enfin, justement, dans la France d'aujourd'hui, on est nourri de choses qui viennent de l'extérieur tout le temps, en permanence. Et quand je dis que même les mains qui mettent à la pâte, qu'elles en aient conscience ou pas, elles cuisent, comme tu disais, si on cuisinait qu'avec des choses d'ici, on mangerait pas grand-chose aujourd'hui, quoi. Et l'autre plat arc-en-ciel, alors le cliché, c'est un rouleau de printemps arc-en-ciel. Un rouleau de printemps arc-en-ciel avec des vermicelles de riz teintées au chou rouge, justement, qui sont bleues. Et... différentes, on va dire, différentes crudités. Et le côté rocaille, je mettrais un confit de feuilles de bissap, de fleurs de bissap. Et il y a un truc qui fait le lien entre les deux, que je mets des fois pour remplacer la sauce de soja, qui est quelque chose de complètement africain, qui s'appelle le netetou. C'est des graines de néré fermentées, et ça apporte ce goût... un peu fermenté qu'il y a dans la sauce de soja, dans le miso, dans plein, plein de choses qui plaisent vachement aux gens dans la cuisine asiatique. Et il y a toujours ce petit truc de « mais ouais, mais quand on fait à la maison, c'est pas pareil !» Parce que quand tu fais à la maison, tu mets pas le truc fermenté qui sent mauvais dans ton frigo. Et qui te fait dire en arrivant dans l'épicerie africaine « oh, ça sent bizarre quand même !» Donc voilà pour le plat. Je sais pas si on a le temps pour le poème, du coup.
Oui, bien sûr.
Un petit bout.
Oui.
Avec les arcs-en-ciel, c'était pas ce qu'il y avait aujourd'hui, mais c'est ce qu'il y a souvent. Je vais vous faire un bout d'un poème qui s'appelle Citoyenne of Aduna. Aduna, en Wolof, ça veut dire le monde. Et c'est en plein de langues, le début, du coup, ça résume bien la situation. De quoi j'ai l'air? Khale Bouler. Legina Khuliba, not just black, but t'es pas blanche non plus, mais alors? D'où viens-tu? D'un peu partout, alias Gwenadu, I don't understand you, well now, you do. Wayolo Wahni, Upanipei, bien sûr que si, I come from a country. Né au Sénégal, moins pas un animal, mais où c'est ça? West Africa. But that's not all, Bokonche Creole, Cap-Vert Creole, Madinina Creole, Guada Creole, je suis une mosaïque créole. Patchwork power, so you na hija del sol. Mi madre es la luna, Vietnamese, was my grandma. Soy una citoyenne of Aduna.
Bravo.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Devo pour ce très beau ouais. Poème multilingue. Merci, qui résume bien effectivement ta trajectoire aux multiples perspectives. Hein. Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. Donc, je propose qu'on ouvre la conversation au public. On va prendre, alors on n'a plus beaucoup de temps, donc on va prendre deux séries de trois questions. Il y a un micro qui circule.
Bonsoir, jour, je sais pas trop. Merci à toutes, c'était trop bien. Le poème était magnifique à la fin, c'était vraiment super touchant. Moi, j'avais une question, peut-être, je sais pas, pour vous ou pour tout le monde en général. Je me demandais, en fait, dans la cuisine, si on pouvait pas aussi, en fait, parler, notamment en France, d'une certaine appropriation culturelle. Et en fait, quelle est la limite en fait dans un restaurant où on se dit bah, on fait un patchwork avec plein de cuisines et c'est super, ou au contraire on s'approprie en fait des savoirs qui sont très localisés et qui appartiennent à des communautés bien spécifiques et qui du coup se voient complètement effacées à partir du moment où c'est dans un restaurant très fancy et très cool. Enfin voilà, c'est pas vraiment une question. Enfin, j'attends pas qu'il y ait une réponse précise, même si dans la vie c'est super. Mais si vous avez déjà réfléchi à ça ou si vous êtes déjà confronté à ça aussi, enfin voilà.
Alors, on va juste vous demander une petite chose dans le public, si vous le voulez bien. C'est est-ce que vous vous situez sur le plan racial et si oui, comment?
Oh oui.
Merci.
Pas de problème. Moi, je m'appelle Myriam Bafou. Je suis, seconde génération issue de l'immigration. Enfin, mes parents, mon père est né au Maroc, ma mère vient de Tunisie. Et je suis perçue comme femme arabe maghrébine / beurette. Voilà.
Merci. Alors, je pense qu'il n'y a pas assez de temps pour parler d'appropriation culturelle dans la cuisine, parce que ce sujet est vaste hein, et que moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Ah oui, d'accord, on va prendre une autre question.
On prend deux questions et après, on répond aux trois.
Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je pose la question directement ou je me situe un peu... Oula, pardon. En termes de situation, comment je me situe, c'est un peu compliqué. Mon père est kurde, ma mère est chilienne, donc les gens ne savent pas trop d'où je suis. C'est un peu compliqué, donc je me considère comme racisée. Et ma question est moins liée à la nourriture, mais plutôt pour des personnes qui sont plutôt racistes. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme lecture? Ou je parle pour ma mère qui est très compliquée, elle ne me perçoit pas comme quelqu'un de racisé, et j'aimerais bien la faire évoluer là-dessus. Mais qu'est-ce que je peux lui faire lire, lui faire écouter, à part Kif Taras, pour qu'elle se rende compte de choses?
Une autre, ou est-ce qu'on... Ok, bon. Alors, par rapport à l'appropriation culturelle que Myriam, tu évoques, vraiment, c'est hyper vaste. Moi,
par rapport à la cuisine, aux cuisines asiatiques, je connais Wat Meal, restaurant hyper authentique qui servent des boboons à 12 euros, et j'en connais aussi Wat Meal qui en servent à 24 euros et qui n'a pas du tout les goûts d'origine, et par contre ça se vend très bien. Donc ça s'appelle l'appropriation culturelle. Ça veut dire qu'il y a une question de domination dans l'appropriation culturelle. On ne parle pas d'échange, hein. Je répète pour ceux qui se disent mais oui mais moi j'adore la cuisine. Non, en fait c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est une question de qui retire le bénéfice de cet aspect qui est totalement lié à la culture. Comme je disais, quand on voyage à l'étranger, l'une des premières choses dont on te rappelle, c'est les cultures. Et la cuisine en fait largement partie. C'est-à-dire que vous nourrissez 3 fois par jour. Et quand vous allez à l'étranger, vous nourrissez aussi 3 fois par jour. Et c'est quelque chose qui vous marque. Et de retour dans votre pays, de retour chez vous, le fait de vouloir vous approprier quelque chose qui appartient à une autre culture et dont des personnes pourraient en bénéficier ici. Je ne vous parle pas de là-bas, puisque c'est évident que là-bas, c'est eux qui en bénéficient, et heureusement. Mais en France, il y a aussi une large... il faut la limite que tu demandes entre la question de l'appréciation culturelle et la question de l'appropriation est fine, et elle est évidemment circonstanciée. On ne va pas dire « il est interdit aux chefs blancs de cuisiner la feuille de coriandre ». Ce n'est pas ça qu'on dit. Voilà, soyons clairs. Vous pouvez manger des sushis si ça vous plaît, ok. Mais par contre, ayez une réflexion sur qui fait les sushis, d'où est-ce que ça vient, à qui profite ce business. Parce qu'on parle de paix quand on parle de racisme, de lutte contre le racisme, on parle de paix, on parle d'apaisement social, on parle de comment vivre ensemble. Et dans comment vivre ensemble, il y a aussi rendre à ceux dont c'est la culture le bénéfice de cette culture, surtout quand c'est des personnes minorées qui n'ont pas accès aux mêmes privilèges que nous. Nous, je parle de nous de manière générale. Voilà, donc c'est ça la question de l'appropriation culturelle. Donc vraiment, c'est un thème qui, moi, ça me fascine. Parce que là, en France, on parle encore beaucoup... Enfin, on n'arrive pas à parler de racisme, si vous voulez. Donc l'appropriation culturelle, c'est l'étape d'après. Et on n'est pas du tout prêt à avoir cette discussion-là. Donc nous, dans Kif Taras, on a très envie d'en parler. D'ailleurs, on a commencé l'année dernière avec Maboula Soumaoro, qui nous a exposé les civilisationnistes et maîtresses de conférences, voilà, les bases d'une réflexion pour aller... Parce que l'appropriation culturelle, c'est pas juste dans la cuisine, hein. C'est dans la danse, c'est dans la musique, c'est dans n'importe quel domaine que vous pouvez citer, il y a de l'appropriation culturelle. Donc aujourd'hui, on peut se poser les bases. Enfin, on a commencé à réfléchir là-dessus. C'est vrai qu'on aimerait pousser plus loin, mais vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire dans Kif Taras. Voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose ?
Non, juste ajouter que l'histoire du racisme, c'est une histoire d'appropriation. Donc c'est le fait d'être allé chez des gens et de capter à la fois leur savoir et leur terre, leurs biens, pour en retirer le produit. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on ouvre un restaurant... sur la base de connaissances qui ont été accumulées par des communautés qui font partie des communautés les plus pauvres et qu'on gagne de l'argent, c'est juste une question politique. C'est comment se fait-il que quand on fait la même chose qu'une personne qui vit de manière... qui, en tout cas, en tire des bénéfices moindres, on arrive à obtenir une meilleure reconnaissance. C'est vraiment cette question-là, quoi. Qui, finalement, bénéficie dans une lignée où, en fait, où d'autres ont établi des savoirs mais ont été stigmatisés pour ces savoirs-là. C'est-à-dire que le restaurant chinois, on va dire qu'il est sale. En revanche, si c'est rebrandé en fait par des gens qui sont blancs, etc., avec juste une petite touche, on va considérer non seulement que c'est propre, mais en plus que ça mérite plus d'argent. Donc c'est aussi ça. C'est comment, en fait, si on veut cuisiner en s'inspirant de cuisine de groupes minorés, bah comment on s'associe à ces gens-là, en fait. On s'associe à ces gens-là et on leur permet d'exister. Enfin voilà, non pas de les écraser en tirant juste le bénéfice d'un travail qui est invisibilisé.
Je vais citer juste le fooding qui a été au cœur d'une réflexion et il y a quelques jours de ça. C'est en fait le fooding, si vous le connaissez, c'est un magazine parisien. Enfin, magazine, c'est un site parisien qui recense des restaurants, on va dire branchés. Hein, c'est comme ça que je. Et en fait, ils ont fait une interview d'un chef. Jeune, blanc, a priori. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu quand je l'ai vu sur une vidéo où il parlait d'une cuisine, de son restaurant, je pense, où il a dit voilà, c'est comme au Vietnam, même meilleur. Il a donc dit dans une interview.
Vous aimez mieux la cuisine vietnamienne que les Vietnamiens.
Voilà,
chez
donc
eux.
En fait, c'est-à-dire que voilà, il s'est dit c'est quand même mieux qu'au Vietnam quand j'y étais, parce que évidemment monsieur il s'y connaît mieux, j'imagine. Et donc il y a eu une réaction sur Internet, des gens qui se sont dit mais c'est incroyable d'être aussi arrogant. Mais qu'est-ce que tu connais ? Je veux dire, c'est quand même une cuisine qui est millénaire. Enfin, je veux dire, donc il y a eu une réflexion là-dessus et donc le fooding a retiré la phrase de l'interview. Voilà, c'est ça la réponse.
Et toi, Desbeaux, qu'est-ce que ça t'évoque, du coup ?
En fait, lui, quand il dit « c'est même meilleur », ça veut juste dire « c'est plus adapté au palais d'ici », sans doute, quoi.
Mais bon, ça veut aussi dire qu'il se considère comme meilleur. Que son, c'est, il a un palais étalon. moi, là-dessus, bah, arc-en-ciel, hein, je suis en paix. Voilà, je peux faire tout ce que je veux, j'ai de la famille, je m'en fous. Mais après, je fais rarement... Enfin, justement, j'allais dire, là où je suis toujours la plus sensible, où j'ai le plus peur, c'est quand, justement, je fais un plat censé être traditionnel de quelque part. Je préfère toujours faire un truc dont je modifie le titre. Je fais de la poésie, je fais un Aïtala Dal, je fais je fais des choses qui ressemblent à, mais à ma sauce. Donc, je change de nom, donc tout le monde est content. Là où c'est plus touchy, c'est quand je veux faire quelque chose qui est vraiment de quelque part. Et si c'est pas justement quelque chose que je maîtrise vraiment, c'est là vraiment où j'ai peur. Je me dis « Ah, imposture ou pas ?» C'est toujours les choses les plus difficiles, quoi. Et qui plus est, si jamais il y a quelqu'un qui vient manger ce plat-là et qui, lui ou elle, est originaire de l'endroit en question. mais sinon, j'ai la chance, justement, une fois encore, d'avoir ma petite, de pouvoir prendre, sortir ma petite caméra et dire « Alors, vous dites quoi, vous ?» Voilà.
Merci. Et donc, pour répondre...
Oui. Il y a beaucoup de ressources qui existent aujourd'hui, je trouve, et je suis la première à les solliciter. Moi, je pense que vous pouvez acheter tous les livres pour vos parents ou pour vos proches. Ça sert pas à grand chose s'ils ne les ouvrent pas. Et de la même manière, on a fait un épisode avec Rokhaya et avec d'autres personnes qui travaillent sur ces questions d'oppression, donc Victor Tuayon de Les Couilles sur la Table et Camille Regache du podcast Camille, qui s'appelait Guide de survie des fêtes de famille, parce qu'on voulait vraiment adresser cette question de vous déconstruisez, vous faites quelque chose au quotidien, vous essayez de nourrir une réflexion personnelle et collective, hein, parce que c'est quelque chose qui se fait vraiment de manière, je pense, globale, et vous aimeriez que vos proches vous accompagnent, en tout cas ne serait-ce considérer que ce que vous faites, c'est quelque chose qui vous identifie aujourd'hui. Mais c'est pas simple de prêcher la bonne parole. Je pense que c'est encore plus difficile chez nous que voilà, dans les espaces publics où on pourrait le faire de manière moins sans l'affect, en fait. Donc, moi, il y a plein de livres, il y a plein de blogs que je lis. Je pourrais citer les livres de Rokhaya Diallo, je pourrais citer des livres de Faïza Guen, je pourrais citer le livre de Maboula Soumaoro, qui est très accessible aussi, même si c'est quelqu'un qui est universitaire. Enfin, je veux dire, ça fait pas peur. Vous pourriez les acheter et les mettre sur leur livre de chevet, mais je sais pas si ça suffirait pour enclencher une réaction. Mais en tout cas, je vous encourage à le faire quand même.
Ouais, parce que c'est vrai qu'au départ, quand vous avez posé la question sans préciser qu'il s'agissait de votre mère, j'avais envie de vous dire n'éduquez pas les gens ignorants. Enfin, c'est. On a. Non, mais on n'a pas gratuitement, en tout cas. On n'a pas le temps. Enfin, juste, on a une vie à mener. On est confronté à des oppressions. On n'a pas à prendre le temps de les expliquer à des gens qui ne nous croient pas, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas de lien affectif avec la personne, j'ai tendance à dire non. Enfin, après, c'est vrai que si on est lié affectivement à la personne, c'est autre chose. Mais il faut qu'on arrive à déceler les signaux d'une personne qui est prête ou pas à entendre. Et c'est vrai que si elle n'est pas prête, c'est difficile, en fait, d'aller à l'encontre de ça.
On va bientôt clore la session, donc si vous avez des questions, c'est maintenant, sinon on va terminer notre enregistrement. Ah, super.
Moi, il y a peu de temps, alors je suis Marine Bachelot-Nuyenne, je me situe comme française de mère vietnamienne et je suis perçue comme métisse, mais pas forcément asiatique, voilà. Mais je passe pour blanche des fois aussi. Assez récemment, et aussi via notamment une amie metteuse en scène qui s'appelle Eva Doumbia et qui travaille actuellement sur un spectacle qui s'appelle Autophagie et qui parle de la nourriture et de la nourriture dans notre quotidien où ce sont des produits coloniaux. Enfin, je trouve que c'est un biais très, très concret pour parler de l'histoire de la colonisation. Parce que on boit tous les jours du thé, du café, du sucre,
du chocolat.
Je suis pas du tout fan de chocolat, du coup je l'oublie.
Là, je crois que la conversation va s'arrêter là. En fait.
Mais voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des ouvrages, parce que je trouve que c'est une question passionnante et très concrète, la nourriture qu'on mange tous les jours au quotidien en Occident est faite de cette exploitation coloniale, séculaire, qui se poursuit. Alors, il y a le côté positif de faire pousser de la coriandre vietnamienne en Bretagne ou de la patate douce, mais effectivement, là, pareil, la pomme de terre, c'est la colonisation de l'Amérique latine. Oui, je ne sais pas s'il y a des références, des ouvrages. Moi, je trouve ça passionnant et extrêmement concret de regarder la nourriture sous le prisme de l'histoire coloniale.
Et je trouve que c'est d'autant plus poignant le fait de dire que, non, là, pour ceux qui aiment le chocolat, comme Rokhaya Diallo, vous noterez que les grands chocolatiers de ce monde ne sont pas issus des pays producteurs de fèves. C'est-à-dire que si vous pouvez citer des Belges, des Suisses, à ma connaissance... Ils n'ont pas d'arbres chez eux de cacao. Donc,
le pays du café, c'est l'Italie.
Voilà, voilà. Et le café aussi, on a vraiment une. C'est-à-dire qu'il y a pas de. Enfin, vous ne pourriez pas citer une marque grand public donc de café qui serait issue, enfin, des pays producteurs. Alors, de plus en plus, j'espère. Mais donc, cette question de l'appropriation des ressources, des matières premières, c'est aussi une vraie question.
Je sais qu'il y a des historiens. J'avais interviewé, mais son nom m'échappe. J'essaie de le chercher, mais un universitaire dont c'était la spécialité en fait la trajectoire historique des aliments, et il m'avait donné l'exemple de la ratatouille comme la preuve en fait de toutes les différentes colonisations, puisque en fait il y a rien dans la ratatouille qui soit d'ici, mais pourtant c'est un plat symboliquement provençal, enfin vraiment qui est devenu une espèce d'emblème en fait de la cuisine provençale. Donc ça c'est intéressant, et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est enfin en tout cas utiliser la colonisation pour montrer la question du gain, parce que souvent les gens nous expliquent qu'autrefois les Français, tous les Français n'étaient pas dans les colonies, donc ils n'en avaient pas forcément conscience. Notamment au siècle dernier, donc ils n'en tiraient pas forcément un bénéfice immédiat. Et rappeler quand même, tout simplement, leur petit déjeuner, enfin, était déjà le fruit de la colonisation. Le café, le thé, le sucre, le chocolat, enfin, tout ça n'aurait pas pu exister. Et c'est arrivé sur les tables françaises, en fait, depuis un certain temps. Donc même en n'étant pas du tout quelqu'un qui voyage, même en étant un Français de conditions modestes, on avait déjà un bénéfice colonial sur sa table, sans même le savoir. Donc je trouve que c'est aussi un prisme intéressant pour montrer que, d'une certaine manière, tous les Français ont bénéficié indirectement des conquêtes coloniales dans leur bien-être aussi quotidien.
Je pense à un livre sur le sucre, mais je ne pourrais pas citer l'auteur parce que je suis nulle en nom, et que je l'ai vu chroniqué par Françoise Vergès sur son réseau social il n'y a pas longtemps. Mais du coup, je suis incapable de... Ce n'est pas très précis, mais peut-être qu'on le mettra en lien quand j'aurai retrouvé l'usage des outils Internet. Mais je pense qu'il existe, c'est vrai, mais ce n'est pas des ressources qui sont facilement accessible pour nous d'une manière générale.
Mais ça vaudrait le coup effectivement d'en discuter.
Merci pour ta question. Ouais,
je crois que malheureusement on va devoir s'arrêter.
Oui.
Merci beaucoup pour vos questions, pour votre présence.
Alors on arrive à la fin de ce numéro Kif Taras live depuis le festival littéraire Dangereuse Lectrice à Rennes en collaboration avec HF Bretagne. Vous pouvez soutenir le festival, toutes les infos se trouvent sur le site dangereuselectrice.org. Soutenez aussi HF Bretagne qui peut être que vous trouvez sur hfbretagne.com, et Debo qui est notre invité du jour sur www.papillesetpapiers.fr.
Kif Taras est un podcast de Binge Audio enregistré aujourd'hui à Rennes au festival Dangereuse Lectrice par Jen, que nous remercions et que nous applaudissons. Et à l'édition du podcast, c'est Camille Rogache et Naomi Titi. On se retrouve donc prochainement pour un prochain thème autour des questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci à Debo.
Merci Debo.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.